je suis seule. Apportez-moi le vrai bonheur. Que ce soit aujourd'hui pour moi un jour de joie, de paix et d'espoir. Habillez mon âme nue, parlez-moi de Jésus. Tendez-moi votre main, donnez-moi un lendemain. Enlevez de moi la détresse, c'est l'ennui. Oh, parlez-moi de lui. Emportez-moi loin de la nuit. Emmenez-moi auprès de lui. Habillez
Bonjour à tous. Voilà, voilà, on est content, on s'approche du printemps. Gloire à Dieu, c'est bon, on a eu un bon moment de chant ce matin. Et je suis content parce que ce matin, dans l'église, là où va Raphaël, le gitan, il m'a téléphoné hier, il me dit, il y a un homme qui se fait baptiser parce qu'il a lu ton livre, l'Oracle, et il s'est converti. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur.
Encore un. Violette m'a parlé, elle vous racontera ça elle-même quand elle viendra. Il y a 6 serviteurs de Dieu qui sont venus pour trouver Raphaël et Violette dans leur caravane. Et ils sont venus pour les remercier parce que les 6, ils étaient des hommes dans le monde avant et maintenant, grâce au ministère de Raphaël, ils sont devenus chrétiens et serviteurs de Dieu. Et ils sont venus pour l'honorer, le remercier. Ça, c'est très bien. C'est très bien d'être reconnaissant envers ceux qui nous ont conduits à Jésus. C'est très bien. Et voilà, et non seulement ça, mais ils ont dit, voilà, il y en a, ils disaient, mais non seulement moi, mais ma femme, mes enfants, mon oncle, mon cousin, ma tata, tout ça, ils se sont convertis grâce à ton ministère et tout. Je crois que ce que nous faisons, nous, en les honorant, et comme ils montrent les photos, comme ils les font écouter les enregistrements et tout ça, ça les inspire. Ils doivent se dire, mais c'est vrai, on n'est pas reconnaissant, on a là au milieu de nous un serviteur de Dieu qui a fait tant de choses, et puis on est là, on le laisse vivoter dans sa caravane. Et je crois qu'ils prennent conscience, c'est bien, d'un amour fraternel qui se manifeste comme ça, et ça me fait très plaisir. Donc on va la voir, on va les avoir tous les deux, Violette, Raphaël, pour mon anniversaire qui est bientôt. Hein, je ne vous dis pas la date, hein, vous savez que c'est le 5 février. Voilà, donc les cadeaux sont les bienvenus, merci d'avance. J'ai déjà reçu le cadeau de ma femme, c'est super, ça vient de Suisse, je ne vous dis pas ce que c'est. Mais c'est très bien. Voilà. Merci chérie, que Dieu te bénisse. Donc voilà, on va ce matin lire des choses, apprendre des choses. Je voudrais attirer votre attention sur une vérité qui a été occultée. Elle a été occultée d'abord par les Juifs, puis par les pères de l'Église, ceux qui constituèrent le recueil des écrits canoniques en particulier. Et puis tout au long des siècles, ça a été mis de côté, et tout dernièrement, par les évangéliques et aussi les pentecôtistes. Et pourquoi cette vérité a-t-elle été occultée? Alors, c'est la grande question qu'on pourrait se poser. Bien, il y a 2 réponses, mais la principale, c'est que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. En effet, Dieu ne voulait pas que cette vérité, il y en a d'autres, mais celle-là en particulier, celle dont je vais vous parler ce matin, il ne voulait pas que des gens mal intentionnés se servent de cette vérité pour exercer un contrôle et faire une discrimination, n'est-ce pas, dans l'Église, dans le monde, et en éliminant et en maltraitant une certaine catégorie de personnes. Déjà dans l'Église, il y a eu suffisamment de malheurs parce que des serviteurs de Dieu malhonnêtes se sont servis des Écritures pour massacrer, tuer, égorger des gens par millions, on le sait, c'est l'histoire, c'est comme ça. Eh bien, si en plus il y avait eu cette vérité dont je vais vous parler ce matin, alors là, c'était même plus la peine, je crois qu'il ne resterait plus grand monde sur cette terre. Certains textes sont donc tenus secrets. D'abord, ils ont été tenus secrets dans les bibliothèques, n'est-ce pas, du temple à Jérusalem. Je dis bien tenus secrets. Ces textes cachés, tenus secrets, sont ce qu'on appelle des textes apocryphes. Bien sûr, il y a des apocryphes, des livres tenus secrets, qui ne sont pas inspirés de Dieu. Ça, c'est certain. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, voilà. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme cela. Il y a plusieurs de ces livres qui sont authentiquement des textes inspirés par le Saint-Esprit. Je voudrais qu'on prenne le dictionnaire ensemble, le Petit Larousse. J'ai le Petit Larousse 2000 parce que c'est celui que ma femme m'avait offert. Et je le consulte tout le temps, régulièrement. Je consulte parce que c'est la langue française, c'est une très belle langue. Vraiment, c'est magnifique. Il y a beaucoup de choses à apprendre là. Hein. Quand on n'emploie que 100 mots en une vie avec 100 mots. C'est comme ça. Hein. À la page 74 de ce dictionnaire, on prend le mot français, apocryphe. Et le mot apocryphe vient du grec apokryphos. J'espère que ça se prononce comme ça, pardonnez-moi les Grecs. Et ce mot-là signifie tenu secret. Alors je pose la question, tenu secret par qui ? Eh bien, Jésus aborde ce sujet dans Luc 11. Verset 52, je voudrais qu'on se lève et qu'on lise ce texte. Jésus parle aux religieux de son époque. Il dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même, vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Vous pouvez vous asseoir. Tenue secrète. Une science tenue secrète. Une connaissance tenue secrète par des religieux. Mais pourquoi ? Alors, il y a la petite histoire, celle qu'on voit, celle qu'on peut se raconter, celle qui peut être analysée humainement. Et la voici, cette petite histoire résumée. Les religieux, gênés par certaines affirmations contenues dans certains livres anciens, préférèrent les tenir cachées, préférèrent que le petit peuple les ignore. Et leur intention, franchement, n'était pas au départ forcément mauvaise. Ils voulaient protéger certaines personnes faibles, certaines personnes timorées dans leur foi, et ils ne voulaient pas qu'ils aient accès à ces textes qui auraient pu les troubler. Au départ, c'était certainement de bonnes intentions. Ensuite, c'était un moyen de pouvoir dominer par, leur fameux super intellectualisme religieux à la noix de coco, et traitant le peuple comme les nufrotins qui ne sait rien, les idiots, les crétins. D'ailleurs, ils le disent, hein, « Oui, mais qui c'est qui suit Jésus ? C'est des pauvres gens, des gens des ignares. Des... » Oui, mais la faute à qui s'ils sont ignares ? C'est parce qu'eux ne les ont pas enseignés. Donc, non, oui ou non, c'est vrai. Hein ? Alors, il valait mieux tenir cette connaissance à l'abri du petit peuple, qui était sans grande instruction. Et ça, c'est donc le résumé du pourquoi visible humainement, du pourquoi est-ce que ces textes ont été cachés. Mais maintenant, sachant que personne ne peut rien faire à moins que Dieu ne le veuille, rappelez-vous, c'était ce que j'ai développé ces dernières semaines, en fait, c'est Dieu qui voulait que cette connaissance de certaines réalités disparaisse des mémoires pour un temps, soit tenue secrète jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Les choses doivent être rétablies à la fin. Ainsi, les clés de la science ont disparu de la circulation ou alors elles furent discréditées au regard des foules ignorantes. Si bien que, par exemple, maintenant vous dites à un chrétien évangélique, ça c'est un livre apocryphe, pour lui, apocryphe signifie faux. Alors que si vous prenez le dictionnaire, c'est pas ça que ça signifie. Ça c'est dans la pensée populaire, ça veut dire faux. Mais en réalité, ça ne veut pas dire faux, ça signifie tenu secret. Mais on a réussi à faire croire ça au peuple, que ces livres-là, il ne faut surtout pas y toucher, c'est faux, c'est même voire diabolique. Voilà, on les a discrédités. Alors Jésus gronde les pharisiens. Hein, alors on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il les gronde? Puisque c'est lui qui a voulu que ça soit caché. Bien, c'est un peu la même histoire qu'avec Pharaon. Dieu envoyait Moïse vers Pharaon, lui disant, dis à Pharaon, fais sortir mon peuple d'Égypte. laisse mon peuple sortir, mais moi, de mon côté, je vais endurcir son cœur pour pas qu'il les laisse sortir. Tu leur diras, si tu ne laisses pas sortir, voilà, je vais te punir, mais ils ne pourront pas laisser sortir parce que je vais endurcir leur cœur. Vous voyez, Dieu fait les choses comme ça. Hein? Et c'est pas... Et gloire à Dieu, il fait bien les choses. Heureusement que c'est lui qui les fait, parce que si c'était que moi, il y a longtemps que j'aurais appuyé sur le bouton rouge pour mettre une fin à tout ça. C'est horrible. Dieu fait bien les choses. C'est lui, le père, qui donc endurcissait Pharaon. C'est la même chose, c'est lui qui voulait que ces livres soient cachés pour un temps, mais il le reproche quand même aux pharisiens. Avez-vous compris qu'il y a la petite histoire humaine, analysable, et la grande histoire, celle voulue par Dieu? Il faut que ça soit clair, il faut qu'on comprenne ça. Hein, c'est ce que je vous ai enseigné aussi il y a quelques temps, en vous disant qu'il y a le message ésotérique et le message exotérique. Maintenant, si vous dites ésotérique aux chrétiens évangéliques, ils pensent tout de suite diabolique, mais pas du tout. Un message ésotérique, c'est un message qui est réservé aux initiés, aux gens, aux disciples, aux gens qui sont fidèles. Aux gens qui ne sont pas fidèles, ben on ne va pas leur donner tout. On leur donne un message exotérique, c'est-à-dire voilà, des petites choses comme ça, ou alors une parabole, puis après ils se débrouillent avec, et puis ils font des interprétations, un peu comme des échafaudages, ou comme on dit en Suisse, des noix posées sur un bâton. Est-ce que vous connaissez cette expression ? Aligner des noix sur un bâton, essayez, vous allez voir, c'est pas tellement facile, mais beaucoup des doctrines chrétiennes sont simplement un alignage de noix sur des bâtons. Parce qu'ils ont un message exotérique, ils n'ont pas eu la révélation du message ésotérique, c'est-à-dire le message donné aux initiés, aux gens qui sont fidèles. Donc ce texte est venu à la connaissance des tout premiers chrétiens. Je voudrais vous prêcher sur un de ces textes tenus secrets, tenus cachés, donc sur un texte apocryphe ce matin, parce qu'au début du christianisme, il y a eu des pharisiens qui se sont convertis, et puis il y a eu des esséniens qui se sont convertis. Vous savez que les esséniens, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui une secte, qui vivaient en communauté, alors là en plus, puis ils étaient apocalyptiques, c'est-à-dire qu'ils croyaient dans la révélation. Et puis alors voilà, donc ils avaient tenu tous ces... Ils se mettaient à l'écart parce qu'ils pensaient, ils croyaient à juste titre que les pharisiens, tous ces religieux à Jérusalem étaient corrompus, donc ils se tenaient à l'écart. Et ils recopiaient d'une façon fidèle les livres anciens et les gardaient, en particulier à Qumran, vous avez entendu parler, les manuscrits de la mer morte. Mais quelques esséniens se sont convertis d'ailleurs. Jean-Baptiste était un esséniens, on pense que Jésus les a fréquentés beaucoup aussi, et peut-être même que on ne sait pas trop. Donc voilà, il y avait beaucoup d'esséniens, donc quelques esséniens qui s'étaient convertis, et qui, se convertissant, ont révélé aux premiers chrétiens l'existence de ces livres et leur contenu. Et ce matin, je vais lire dans la Bible un texte apocryphe, c'est-à-dire un texte qui a été tenu caché et que Jude nous révèle. On trouve ça dans Jude, verset 14, puisqu'il n'y a pas de chapitre dans ce texte, il n'y a que des versets, il n'y a pas de chapitre. Donc Jude 14, je lis, 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch... C'est donc Jude qui parle. Le septième depuis Adam, il précise bien, c'est pas n'importe quel Enoch, parce que des Enoch, c'est comme les Dupont, il y en a plein. Il y a même un fils de Caïn qui s'appelle Enoch. C'est aussi pour eux que Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ok, maintenant, on va prendre les manuscrits de la mer morte, puisqu'ils ont été traduits en français, beaucoup de pasteurs l'ignorent même, et on les trouve à la librairie chrétienne rue de Lille. On peut les acheter là, à Paris, on peut les acheter aussi dans n'importe quelle bonne librairie, puisque c'est dans la série Pléiade, la Pléiade, Et voilà, donc je vous lis dans Enoch, le livre d'Enoch qui était retrouvé donc dans les manuscrits de la mer morte, et au chapitre 1 et verset 9, je lis, qu'est-ce que je lis ? Car il vient avec ses saintes myriades juger l'univers, faire périr tout impie, confondre toute chair pour tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, pour les outrages qu'ont proférés contre lui des pécheurs impies. Vous voyez, Jude donc connaissait cette prophétie, et bien d'autres encore, parce qu'il connaissait les livres. C'est pas, il n'a pas eu la révélation que Enoch, le septième depuis Adam, avait donné cette prophétie. Il connaissait le livre existait, il existe toujours. Il l'avait eu entre ses mains et il le cite parce qu'à l'époque, les chrétiens dans l'église primitive, avaient accès à ces choses. Et nous qui sommes arrivés à la fin des temps, c'est-à-dire ce que la Bible appelle non pas la fin du monde, mais la fin du temps des nations, ce sont les nations qui sont en train de s'effondrer pour mettre en place le mondialisme qui est en train d'apparaître très sérieusement, pour mettre en place l'Antichrist, eh bien nous sommes en plein dans cette période où il est dit que la connaissance, c'est-à-dire la science, augmentera. Qui peut nier ce fait? Personne ne peut nier ce fait. Dans le monde, la science, la connaissance a augmenté, mais d'une façon, c'est incroyable maintenant. C'est même incroyable. Bon, moi, je comprends SMS, je comprends Bluetooth, je comprends MMS. Mais après ça, c'est fini. Moi, je suis dépassé, quoi. Je veux dire, c'est trop, là. Ils vont trop vite. C'est pas possible. Je plaisante. Mais c'est vrai, la science a augmenté. Et dans l'Église de Jésus-Christ aussi, la science a augmenté. Rappelez-vous que ça fait. C'est en même temps, hein. Voilà que tout à coup, à partir du siècle passé, au début du siècle passé, le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, c'est-à-dire sur des gens charnels la plupart du temps. C'était le réveil de Pentecôte qui n'a fait que de grandir. Des révélations ont été données au peuple et maintenant, eh bien, c'était extraordinaire ce que Dieu a révélé depuis un siècle, quoi, je veux dire. Des choses qui avaient été oubliées, des choses qui avaient été perdues et qu'on a retrouvées maintenant. Aujourd'hui, Dieu parle encore et en particulier par l'archéologie, hein, les pierres qui parlent maintenant. Et la découverte des manuscrits de la Mer Morte, c'est un signe magistral que Dieu nous fait. On peut lire Enoch 1, toujours dans Enoch. Hein. Je reviens à Enoch 1, versets 2 et 3. Enoch proféra ses poèmes. C'était un homme juste auquel fut révélée une vision venant de Dieu et qui avait la vision du Saint et du ciel. Et il dit... Voici ce que les saints anges m'ont fait voir, c'est d'eux que j'ai tout entendu et en contemplant j'ai acquis le savoir. Ce n'est pas à la génération présente que j'ai pensé, mais c'est pour une génération lointaine que je parle. Je prends maintenant la parole au sujet des élus, et c'est à leur sujet que je profère mon poème. Donc c'est notre génération qui est concernée. C'est pour notre génération qu'il a écrit ces choses, qu'il a voulu que ces choses soient consignées par écrit. Donc, il faut que nous y prenions. Mais qui prend garde? Qui prend garde à ça? Les choses vont lentement, vous me direz. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va sortir. Il y a certaines versions de la Bible maintenant qui citent un peu les manuscrits de la Mer Morte. C'est bien, ça commence un petit peu. Mais les gens sont très frileux. Ils sont déjà très frileux avec le livre de l'Apocalypse. Alors, vous parlez, si maintenant on commence à venir avec Enoch. Bon. Moi, je possède ça, ce livre, depuis le 9 juin 1987. Je l'étudie. Et dans la communauté, nous en avons tous un exemplaire. Je voudrais vous lire donc un texte dans ce livre d'Enoch, que Jude connaissait, je répète. Je voudrais vous lire un texte, c'est le chapitre 85 que j'ai choisi. Et je vous le lis. Plus tard... J'ai eu en rêve une autre vision. Je vais te montrer tout ce que j'ai rêvé, mon enfant. Et Enoch éleva la voix pour dire à son fils Mathusalem, « Je te parle, mon enfant, écoute ma parole et prête l'oreille au songe visionnaire de ton père. Avant d'épouser Edna, ta mère, j'ai vu une vision dans mon lit. Et la voici, un taureau sorti de la terre et ce taureau était blanc. Après lui sortit une génisse et avec celle-ci deux veaux, dont l'un était noir et l'autre roux. Le veau noir frappa le roux et le poursuivit sur la terre et dès lors je ne pus voir le veau roux. Le veau noir grandit, avec lui vint une génisse et je vis sortir de lui des bovins en grand nombre qui lui ressemblaient et le suivaient. La première femelle quitta le premier taureau à la recherche du veau roux et ne le trouva pas, poussa sur lui de grands gémissements et le chercha. Et cela, je l'ai vu jusqu'à ce que le premier taureau vint la calmer. Dès lors, elle ne cria plus. Elle mit au monde un autre taureau blanc et après lui beaucoup de génisses et de taureaux noirs. J'ai vu en dormant le taureau blanc grandir, lui aussi il devint un grand taureau blanc, et de lui sortir beaucoup de bêtes blanches à sa ressemblance. Celles-ci se mirent à donner naissance à de nombreuses bêtes blanches, leur ressemblant et se suivant l'une l'autre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Eh bien, je vais vous le dire. Un jour de la semaine qui vient, vous aurez sur notre site Révélation Bible, je pense dès lundi, je pense que Richie va pouvoir nous le faire, un écrit qui donnera de plus amples explications au sujet de cette vision d'Enoch. J'ai écrit cela il y a à peu près 2 semaines maintenant. Pour le moment, on va voir rapidement ce que ça signifie. Il y a une symbolique, évidemment, dans toute la Bible, mais aussi, bien sûr, dans le livre d'Enoch. Et il faut connaître le sens des symboles pour comprendre le sens du texte, c'est évident. Enoch a eu un songe, en fait. C'est le second songe que Enoch a eu. Il en a déjà eu un avant, mais bon, vous aurez ça dans les commentaires que j'ai faits et que vous trouvez sur Internet. Il parle donc là avec son fils Mathusalem et lui raconte ce songe. Ce songe est écrit dans le livre d'Enoch jusqu'à la fin du chapitre 89. Donc il fait 85 jusqu'à la fin du 89. Et voilà l'explication du début de ce songe. Attention, la clé de la science est en train de tourner dans la porte qui va s'ouvrir, cette porte qui était fermée pendant des millénaires. C'est une connaissance très peu connue. Enoch eut ce songe avant d'avoir épousé Edna, la maman de Mathusalem. Hein, la Bible ne nous parle pas de qui était la femme d'Enoch, mais on trouve cela dans les livres des manuscrits de la Mère Morte, dans le livre de Jubilé 4:20. Eh bien, elle s'appelait Edna, et c'était la fille de la sœur de son père. Vous savez, Jéred, c'était le père d'Enoch, et la fille de la sœur de Jéred, c'était la maman de Mathusalem. D'accord? C'est pas compliqué. Enoch ne se précipite pas pour raconter son deuxième songe. Il prend le temps, il épouse sa femme, ensuite il a un gamin, ensuite il grandit, puis quand il a un âge de comprendre, il lui explique le songe. Donc c'est pas parce qu'il était tout énervé d'avoir eu un songe la nuit même qu'il commence à raconter ça à son gamin. À l'époque, on prenait son temps, on vivait des 900 ans. C'est vrai, c'était différent de maintenant. Et voici l'explication de ce songe. Enoch voit un taureau blanc sortir de la terre. Il a vu, en fait, Dieu créant Adam à partir de la terre. Puis une génisse sortit, ça c'est Ève. Et avec Ève sortirent 2 veaux, un noir et un roux. Caïn et Abel sortent ensemble. Et ça nous apprend là qu'ils étaient jumeaux. Et je développe cette révélation dans les écrits que vous aurez sur le site dès cette semaine là. Ça sera par écrit. En fait, une femme, on le sait, peut avoir des jumeaux qui ne sont pas du même père. Il suffit par exemple que 2 hommes aient une relation rapprochée avec la même femme pour qu'ils aient chacun un enfant par la même femme et que ce soit des jumeaux. Par exemple, il y a des cas comme ça, un noir accouché avec une femme, ensuite un blanc accouché avec elle le jour d'après et la femme, quand elle accouche, c'est des jumeaux, il y en a un noir et un blanc. Ça, c'est classique. Vous pouvez demander à un gynéco, il va vous le dire, un médecin, il va vous le dire, tout le monde le sait. Caïn et Abel donc sortent ensemble, et en fait, c'est quelque chose que je développe donc dans les écrits que vous aurez cette semaine. Et ça, mes frères et sœurs, le fait qu'ils sortent ensemble, mais qu'ils sont de 2 pères différents, c'est là tout le mystère qui est enfin révélé au sujet de ce que nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 13. Vous connaissez Matthieu chapitre 13 ? Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Hein, c'est par Jésus-Christ que tout a été créé, Colossiens 1, 16. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivré, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le serpent ancien, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Eh bien, cette parabole est enfin révélée là pleinement. Elle est aussi dans la Bible. Mais sans cet écrit, c'est un peu compliqué à comprendre. Quoique, on peut le comprendre, je l'avais compris avant. Mais c'est bien quand même d'avoir cet écrit d'Enoch, ça nous rassure. Caïn, sorti donc en premier, c'est le veau noir, livré et semé par le diable. Abel est sorti ensuite, et c'est le bon grain, si vous voulez, le blé. Il est semé par Adam, lui, et c'est le veau roux. Vous voyez, le veau roux. Et ce que Ève, elle nous raconte dans Genèse 4, verset 1, quand elle dit, quand elle accouche de Caïn, elle dit « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel », elle ne dit pas plus la vérité que les prêtres quand ils nous radotent que la transsubstantation, d'accord, hein? Voilà. Bon, c'est clair. C'est pas parce que Madame Ève l'a dit, hein, en état de péché, qu'on doit prendre ce qu'elle dit comme parole de Dieu. Elle l'a dit parce qu'elle a trouvé que c'était épouvantable d'accoucher. Elle a eu très très mal. Et puis, quand c'était fini, elle dit « Oh, Dieu m'a aidé, merci Seigneur. » Hein, voilà. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que cet enfant vient de Dieu. Non. La Bible nous dit plus loin que Caïn était du malin. Bon, voilà. Faut pas faire... Ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible dit. C'est tout. Ce que Ève dit, c'est comme si vous prenez les paroles de Satan dans Matthieu chapitre 4, puis vous dites c'est la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Satan. Matthieu 4, Satan parle, ben c'est Satan qui parle, c'est pas Dieu qui parle. Et quand c'est Ève qui parle, c'est pas Dieu qui parle, c'est Ève qui parle. Faut arrêter d'être bête. Faut comprendre les choses telles qu'elles sont. Caïn et Abel, donc, étaient des jumeaux de deux lignées différentes, de deux pères différents. Hein? Un veau noir et un veau rouge. Abel est le veau roux, marqué déjà du signe prophétique du sang. Le veau noir est Caïn. Le noir symbolise toujours le mal. Bon, les Africains qui m'écoutaient, vous savez bien que je ne suis pas raciste et que là, il n'y a pas de connotation. C'est juste une symbolique. Hein. Dans le monde entier, on dit toujours, là, le noir, c'est... Mais j'aime beaucoup les noirs. D'abord, ils ne sont même pas noirs, ils sont bruns foncés. Voilà. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. Caïn, donc, tue Abel. On trouve ça dans Enoch 85.4, on vient de le lire. Hein. Caïn, le veau noir, grandit et rencontre une génisse. Tout le monde dit... « Oh, mais alors, qui c'est qui l'a épousé ?» Hein ? Ben, on donne une réponse, mais vous allez voir, la majorité ne voudront pas. Ils ne voudront pas. Je place des pièces en or devant eux, la plupart disent qu'elles sont fausses. Ça a toujours été. Jubilé 4.9, livre des manuscrits de la mer morte, Caïn prit pour femme sa sœur Avan, et elle lui enfanta Enoch à la fin du quatrième jubilé. Et tout ça, c'est confirmé par Genèse 4.17, mais on ne dit pas que c'est sa sœur, il ne nous donne pas le nom. Mais vous trouvez ça dans les manuscrits de la mer morte. Amen. Le fils de Caïn, il a un fils avec cette femme, il s'appelle aussi Enoch. Vous voyez, c'est juste pour mettre le trouble. Hein? Mais ce n'est pas le Enoch qui a eu le songe dont on est en train de parler ce matin. Le Enoch dont on est en train de parler ce matin qui a eu un songe, c'est le septième depuis Adam. Jude fait bien exprès de dire ça. Il ne dit pas ça par hasard. Jamais quand on lit une prophétie, on nous dit il était le 18e, ou il était le 15e, ou il était... Non, non, là c'est unique, on nous dit Enoch c'était le 7e depuis Adam. C'est voulu, pourquoi Dieu a voulu que Jude écrive ça? Ben, il y a une raison. Si on réfléchit, en ne croyant pas que Caïn est le fils du diable, si on croit que Caïn est le fils de Adam... Eh bien, Enoch n'est pas le septième, il est le huitième. Prenez la Genèse et lisez. Si Adam est le père de Caïn, la généalogie est Adam. Maintenant, vous comptez 1, Caïn, 2, Abel, 3, 7, 4, Enoch, 5, Kenan, 6, Malaël, 7, Jéred, 8, Enoch. Bon, voilà, la Bible ne compte pas Caïn comme fils d'Adam. Vous pouvez voir ça dans Genèse 5, 15 à 18. Elle compte Abel qui est décédé, mais elle ne compte pas Caïn, parce que ce n'est pas le fils d'Adam. Vous voulez que ce soit le fils d'Adam? Ça ne vous empêchera pas d'aller au ciel. vous irez au ciel, même si vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous raconter ce matin. Ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de vous apporter une connaissance qui peut vous aider. Mais si vous ne voulez pas, mais tant pis, c'est pas grave, ça ne mettra pas votre salut en jeu. La Bible ne compte pas Caïn comme fils d'Adam. Enoch est donc bien le septième. Depuis Adam, comme Jude dit, comme la Bible dit, comme je dis. Caïn, c'est une autre lignée. Vous avez la lignée de Adam, Abel, Seth et tous les autres. Et puis vous avez une autre lignée, une autre généalogie qu'on trouve dans Genèse 4, 17, 24. C'est la lignée de Caïn. Dans Enoch 85, verset 6, Ève cherche Abel. Elle se lamente beaucoup en le cherchant. Et puis, au verset 7, Adam la tranquillise. Et puis, elle finit par mettre au monde un autre taureau blanc. Ça nous est raconté dans Genèse 4, 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Voilà Seth, l'autre taureau blanc. Et la Bible précise bien, semblable, comme son père, Adam. Enoch 85, 3, Genèse 5, 3. Genèse 5, 3 dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Ah. C'est bien la preuve que l'autre n'était pas à sa ressemblance selon son image. Sinon, ça aurait été dit. Non ? Ben voilà. Et puis, ça fait, ou alors, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de petits trucs comme ça sur lesquels vous devez passer avec légèreté en disant « Ouh, ben, bof, bof, bif, pouf, paf, pouf. » C'est ce que font la plupart des chrétiens. Mais bon, nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons savoir, Jésus a dit que c'était la clé de la science, que c'était important. La clé. C'est important. Et puis, si vous ne pensez pas que c'est important, mais c'est pas grave. Rassurez-vous, c'est pas grave. Mais pour moi, c'est important. Puis, après Seth, il nous est dit dans Enoch 85 qu'elle a mis au monde beaucoup de génisses et beaucoup de taureaux noirs, verset 8. Ces génisses, ces taureaux noirs sont d'autres enfants nés de Ève et d'Adam qui portent en eux de plus en plus la marque du serpent. C'est-à-dire que, parce que ça s'est passé sur 1600 ans ça. Et pendant ces 1600 ans, cette fameuse souillure du serpent qui a eu lieu là dans Ève, elle s'est incrustée dans cette femme et tous maintenant sont nés dans le péché et on a tous en nous cette force, cette puissance mauvaise qui se trouve certainement en plus dans ce que les scientifiques appellent le cerveau reptilien qui s'est développé là et qui conduit les générations suivantes jusqu'au déluge. Parce qu'il n'était porté que vers le mal. Toute cette histoire, ça se déroule sur une période de 1600 ans. Il y a eu encore des tas d'autres souillures. On trouve dans Genèse chapitre 6 un mélange contre nature et le monde est devenu petit à petit ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde mélange de confusion maintenant. Nul ne peut dire si un tel est de la semence de Dieu, si l'autre est de la semence du serpent. Tout a été mélangé et c'est par la nouvelle naissance que maintenant nous pouvons avoir accès au royaume de Dieu. Nous avons tous la marque du serpent, nous avons tous la flétrissure, le péché en nous. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu détruire l'acte légal qui nous condamnait, c'est-à-dire la loi. Il a ôté le péché du monde. Mais cette bénédiction-là n'est au bénéfice que d'une certaine catégorie de personnes, ce n'est pas pour tous. Oui, alors des gens vont dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Oui, c'est vrai, il a tant aimé le monde. Mais il est venu pour sauver les siens. Il dit, je suis venu pour sauver les miens, les siens. Il est venu chercher à sauver les siens. Ça signifie qu'il n'est pas venu chercher la semence qui ne lui appartient pas. Et c'est ça, c'est une connaissance qui fait peur à ceux qui sont timorés dans la foi, qui sont toujours en train de douter, et qui ne sont pas affermis, qui ne sont pas ancrés sur le roc, sur la parole de Dieu. Il faut l'être et on ne peut pas être ancré sur la parole de Dieu si on la lit une fois par semaine, c'est pas vrai. C'est comme par exemple un sportif qui se présente aux Jeux Olympiques mais qui ne s'est pas entraîné régulièrement, ben il va pas gagner, hein. C'est clair. C'est une connaissance que Dieu veut que vous ayez. Cette science, ce savoir, a été tenu secret jusqu'à il n'y a pas très longtemps, certaines sectes se sont emparées malhonnêtement pour mépriser le reste du monde chrétien, pour toutes sortes de raisons. Mais ça n'empêche pas que c'est la vérité. Là, des sectes se sont emparées du message de la Bible pour faire des horreurs. Mais ça n'empêche pas que la Bible est la vérité. D'accord ? Ça dépend comment ils tournent les choses. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. C'est elle qui nous rend libres, mes frères et sœurs. J'ai pressé ces choses, j'ai enseigné ces choses ce matin parce que je me sens poussé par l'Esprit Saint à le faire. Il y a encore environ 3 ans, j'avais décidé, avec le conseil de la communauté, de tenir ces choses secrètes, cachées, de ne pas les révéler. Vous savez pourquoi ? Parce que je craignais encore d'être rejeté par les religieux. Je me rappelle, on avait vu des grandes réunions de chrétiens à Paris et tout, puis je m'étais dit finalement, ce serait bien si on pouvait se rapprocher un peu, avoir un peu plus de communion fraternelle avec ces gens, l'air. Au bout de 3 ans, je vois que le fait d'avoir tenu ces choses secrètes et de ne pas les avoir divulguées, ça n'a rien changé du tout. C'est comme si je dis, bon, ben, je vais arrêter de boire de l'alcool pour aider machin. S'il veut boire, il boit. D'accord ? Clair. Aujourd'hui, j'ai plus peur d'être rejeté ni par les religieux, ni par mes soi-disant amis, je m'en fiche. Moi, ce que je veux faire, c'est... Enfin, je m'en fiche pas, mais... Ce que je veux faire, c'est faire ce que Dieu veut que je fasse. Dieu m'a délivré cette crainte. Bien sûr, ça fait mal, ça fait de la peine. Paul, il dit qu'il secoue la poussière de ses habits et de ses pieds, qu'il n'en a rien à faire de tous ces juifs. Mais finalement, il est toujours en train d'y retourner parce qu'il les aime. C'est la même chose avec mes amis qui n'aiment pas mon message, avec avec ces religieux qui n'aiment pas ça. Moi, je les aime quand même, mais je suis obligé de choisir et j'ai choisi. Voilà ce que je vais faire. Dès cette semaine... Dès lundi, vous trouverez donc un écrit sur les 2 semences sur votre site Révélation Bible. Vous pourrez aller consulter les commentaires du livre d'Enoch également sur le site. Tout n'y est pas encore, mais j'y travaille. Il y a 113 chapitres dans le livre d'Enoch. On en a lu un ce matin. Hein? J'en ai déjà commenté 50 et il y en a une trentaine, je crois, hein, sur le site, c'est ça, hein, une trentaine. On va mettre tout. Maintenant, je sais que beaucoup n'aiment pas lire sur Internet. Moi-même, je n'aime pas tellement lire sur Internet. Quand je veux lire quelque chose, c'est ce que je fais. Je l'imprime puis je le lis à part. Parce que je n'aime pas lire sur Internet. Mais j'ai trouvé une autre idée encore. Je pense que ça serait bien. Je vais lire à haute voix tout le texte d'Enoch avec les commentaires que j'ai faits. Et vous pourrez les télécharger. Et vous pourrez les mettre sur CD. Vous pourrez les écouter quand vous voulez. Vous pourrez même les offrir à n'importe qui, je vous en fais cadeau. Je ne veux pas faire de l'argent avec les choses comme ça. Je pourrais, hein, y en a d'autres qui font, moi je ne veux pas faire de l'argent avec ça. Dieu est ma source et il débrouillera pour m'aider. Amen. Frères et sœurs, je ne veux pas qu'au jour des récompenses, quand ça sera mon tour à me trouver devant Jésus, j'entende Jésus me dire, je t'avais donné les clés de la science, tu n'as pas ouvert la porte de la science à ceux de ta génération. Je t'avais donné un moyen extraordinaire, je t'avais donné Internet avec un frère qui a fait un site fantastique et tu ne l'as pas utilisé pour faire connaître la clé de la science. Je ne veux pas que Jésus me dise ça. Je ne veux pas. Vous savez, dernièrement, là, j'ai passé par une très grave opération et j'aurais pu y rester. J'avais même dit à ma femme, tiens, j'ai repéré un tailleur de pierre qui fait des belles choses. Je voulais que... Et puis j'avais fait un dessin de la pierre tombale que je voulais. Mais carrément, moi, je me disais, je veux peut-être partir, je ne sais pas. Et je m'y préparais. Et cette opération grave, finalement, je m'en suis bien sorti. Vous voyez, je suis toujours là. Et je ne veux pas jouer avec le temps. Désormais, que vous me rejetiez ou non, ça m'est presque égal. Je ne dis pas ça m'est égal, mais presque égal. Ce que je veux faire, c'est la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Et je prie que Dieu m'aide à le faire bien. Et que Dieu nous bénisse ensemble et que vous me souteniez dans cette affaire. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur d'éclairer les frères et sœurs qui écoutent ça sur Internet et qui sont peut-être surpris ce matin, surpris d'entendre de telles choses. Je te demande, mon Dieu, de les bénir, de leur permettre de réécouter cela, de ne pas se fermer. Je lis tout esprit mauvais qui voudrait les empêcher de parvenir à la vérité. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit mauvais de ténèbres qui voudrait les empêcher de venir à la réalité, de la vérité, soit lié et chassé hors d'eux afin qu'ils puissent faire un choix en toute connaissance de cause, librement, intelligemment, avec le secours de ton esprit, Père. Dans le nom de Jésus, je te prie, afin que la science, afin que la connaissance puisse augmenter en même temps que notre amour fraternel et notre amour pour toi, Jésus. Amen. Amen.